Tristan Bernard, la visite des bagages. Il y a déjà quelques années de cela, me dit le petit tabac, c'est un vieux marchand de papier et de jardinière en osier qui nous avait donné le tuyau. En faisant une tournée autour de Compiègne, il avait remarqué la maison isolée. La veuve V, qui habitait là, était une vieille timbrée qui n'avait pas de bonne et ne sortait jamais de chez elle. Les fournisseurs n'entraient même pas dans sa maison. Ils déposaient qui leur paquet d'épicerie, qui leur beurre et leurs œufs sur un banc du jardin, et ils trouvaient la monnaie à côté toute prête et toute préparée. Noël Bosco me dit que puisque nous avait raconté l'affaire à nous deux, on ferait ensemble et qu'il était inutile d'en parler à personne. À 4 francs qu'il avait, j'ajoutais une petite malle d'occasion. Je ramassais dans le terrain vague quelques méchants bouts de bois, quelques pavés pour donner du poids et pas transporter le colis à vide à Compiègne. Ce qui, en cas de péril, en cas de pétard, plus tard, était susceptible de donner une indication. On était convenu, en effet, que je ramènerais la malle à Paris, plutôt que de la quitter dans la maison ou dans la campagne. On pouvait s'arranger pour fermer la maison et me faire croire que la vieille était partie en voyage. Moins vite, naturellement, qu'on ferait, on aurait dû, et pour cette affaire-là, mieux ça vaudrait pour nous. À Paris, nous n'étions pas embarrassés de nous en débarrasser. Nous avons un copain qui se chargeait de brûler le tout. La nuit était presque tombée quand on se présenta chez la vieille. On était venu, soi-disant, pour lui parler des échantillons de vin. Nous savions qu'elle était sauvage et nous étions inquiets de savoir si ça prendrait bien, et si elle consentirait à nous laisser entrer chez elle. Ça prit parfaitement. Et entré dans son salon, l'affaire ne fut pas longtemps expédiée. Oh, j'ai vu souvent travailler Noël, mais jamais comme ce jour-là. En un rien de temps, cette dame, qui était lourde, pas mal, il l'avait empoignée par le cou et l'avait posée sur le canapé comme sur un étau, un établi. Oh, c'était un fameux courrier ouvrier que ce bossu-là. Mais ça n'était qu'un ouvrier. Et tout ce qu'il avait combinaison, précaution, c'était moi qu'il fallait que je l'imagine. Ça m'était bien dû d'ailleurs, puisque je n'étais pas bon pour la grosse besogne et j'avais envie de vomir rien qu'à tenir les jambes de la vieille pendant que le Bosco lui pesait tranquillement sur le cou. Et quand le corps ne bougea plus, il me fit l'effet d'être encore assez gros. Il tenait dans la malle, mais le couvercle venait juste par-dessus. Et il ne chahuterait pas dedans, ce qui valait mieux. La malle bouclée, on visita les meubles, on trouva quelque chose comme 800 francs d'or dans les tiroirs, et on fit tomber encore une vingtaine de petites pièces de 5 francs en retenant une vieille boîte élégante en étoffe grise où cet original avait eu l'idée de les carrer. Dans une théière, il y avait des médailles, des bijoux et des papiers de banque écrits en anglais à dire rien comprendre, et qu'on emporta à tout hasard. La nuit était presque tombée quand on se présenta chez la vieille. On était venu, soi-disant, pour lui placer des échantillons de vin. Nous savions qu'elle était sauvage, et nous étions inquiets de savoir si ça prendrait bien, et si elle consentirait à nous laisser entrer chez elle. Oh, ça prit parfaitement. Et entré dans son salon, l'affaire ne fut pas longue à expédier. J'ai vu souvent travailler Noël, mais jamais comme ce jour-là. On n'a rien de temps. Cette dame, qui était lourde, pas mal, il l'avait empoignée par le cou et l'avait posée sur le canapé comme sur un établi. Oh, c'était un fameux ouvrier que ce bossu. Mais ça n'était qu'un ouvrier. Et tout ce qui était combinaison, précaution, c'était moi qu'il fallait que je l'imagine. Ça m'était bien dû d'ailleurs, puisque je n'étais pas bon pour la grosse besogne. Et que j'avais envie de vomir, rien qu'à tenir les jambes de la vieille, pendant que le Roscoe lui pesait tranquillement sur le cou. Et quand le corps ne bougea plus, il nous fit l'effet d'être encore assez gros. Il tenait dans la malle, mais le couvercle volait juste par-dessus. Et il ne chahuterait pas dedans, ce qui valait mieux. La malle bouclée, on visita les meubles. On trouva quelque chose comme 800 francs d'or dans le tiroir. Et on fit retomber encore une vingtaine de petites pièces de 5 francs en retournant une vieille bottine élégante en étoffe grise où cet original avait eu l'idée de les carrer. Dans une théière, il y avait des médailles, des bijoux et des papiers de banque écrits en anglais, à n'y rien comprendre, et qu'on emporta à tout hasard. De travailler, de fureter, de tourner de droite et de gauche, enfin de se donner du coton, ça empêche de penser à ce qui peut arriver par la suite. Quand on porta la malle tous les deux à la gare, et quand on la fit enregistrer, je ne pensais même plus à ce qu'il y avait dedans. Ce que nous avions décidé à ramener le colis par le train, c'est que je connaissais un copain à l'octroi de la gare de Noir du Nord, un appelé Filet, avec qui il n'y aurait sûrement pas de mousse pour la visiter, et qui me la laisserait emporter mon colis sans le faire ouvrir. À Compiègne, on se serra la main avec Bosco. Il prit le train sur la direction de Ternier pour aller dire un petit bonjour à sa famille. Dans la maison de la vieille, il avait trouvé dans un coin une gentille poupée en porcelaine qu'il rapportait à sa petite nièce. Une fois dans le train, à rester à rien faire, les nerfs se détendent. On n'a plus la surexcitation, on a moins de courage. En passant vers Saint-Denis, on sentait approcher la gare du Nord, et j'éprouvais comme une impatience de bouger et de m'en aller de ce wagon étroit. Le train stoppa à n'en plus finir sous un des ponts de la chapelle. Enfin, il arriva au quai. Pendant qu'on descendait les bagages des fourgons et qu'on les amenait dans la grande salle, je filais dans la rue pour arrêter un sapin, un taxi. Mais ce jour-là, il y avait course quelque part à Enghien, je crois. Des tas de trains arrivaient en même temps, et les sapins du devant de la gare étaient tous enlevés au passage. Il fallut courir presque jusque vers la gare de l'Est pour en ramener un. Aussi, quand je rentrais dans la salle des bagages, la plupart des colis étaient déjà enlevés. Il n'en reste plus que 7 ou 8 sur cette espèce de grand comptoir où l'on fait la visite. Et j'aperçus, entre un paquet de linge et un mannequin, ma petite malle noire. Mais où donc était Filet, mon pays de l'octroi? Je demandai, après lui, à une de ses collègues. Il me répondit que Filet était malade et n'était pas venu depuis 2 jours. Je demandai alors à cet employé de venir marquer mon colis pour que je puisse l'emporter. J'allai jusqu'à la malle et il s'approchait derrière moi, un bout de craie à la main, quand j'aperçus de l'autre côté du comptoir une espèce de vérificateur, chef, avec un képi à 3 galons. Il grisonnait, il faisait de la roupette. J'espère parce qu'il venait de s'attraper avec une dame pour la visite d'un colis. Ma main était posée sur ma malle. Il me demanda rudement si je n'avais rien à déclarer. Et sans attendre ma réponse, il me dit d'ouvrir le colis. Oh, je sentis sur la nuque une impression pas ordinaire, comme si la peau se rétrécissait. Mes bras se mirent à trembler dans mes manches. Je tapais machinalement sur mes poches comme pour chercher mes clés, que je ne voulais pas trouver. Mais un employé d'État avec un trousseau. Je jetai un coup d'œil sur la sortie. Il y avait des hommes de l'octroi tout le long du chemin et encore à la porte. Et déjà, l'employé essayait les petites clés d'un trousseau. Je restais là, sans plus savoir où j'étais, bien loin de tous ces gens, ne pensant plus à rien de rien. Enfin, une clé entra dans la serrure et tourna. Le couvercle se redressa en arrière. Alors, je me mis à rire comme un imbécile. Ce qu'il y avait dans la malle, c'était des petits tricots d'enfants, des chaussures, des savons, des faux cols. Et durant que les employés farfouillaient à travers, je me demandais qui avait pu emporter mon colis véritable. Et qui s'en allait maintenant à Paris avec, à côté du cocher, le corps emballé de la veuve V. Ce qui est mieux encore, c'est que jamais plus j'ai entendu parler de cette affaire-là. La personne a-t-elle eu peur de raconter la chose et de s'attirer quelques désagréments? Je n'en sais rien. Mais je pense souvent, rigolant, à la bonne figure qu'elle a dû faire dès qu'elle a ouvert le colis. Dans sa malle à elle, j'ai trouvé ce gilet de laine que je porte depuis 3 hivers et qui me tient bougrement chaud.